Les sorties de ce mercredi, Les Enfants du Temps de Makoto Shinkai, c'est un film japonais d'animation, Laurent, de cet auteur qui avait signé déjà, qui était un triomphe d'ailleurs de Your Name en 2016. Là, cette fois, c'est l'histoire de Odaka, jeune lycéen qui fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. Un phénomène météorologique extrême touche alors le Japon, exposé à de constantes pluies. Odaka est dépêché pour enquêter sur l'existence de prêtresses du temps. Peu convaincu par cette légende, il change soudainement d'avis lorsqu'il croise la jeune Ina. Donc, fable initiatique au gros message écologique.
Oui. On avait déjà beaucoup aimé Your Name. Alors, Shinkai fait partie de cette jeune génération qui est en train de gérer l'après Miyazaki, qui n'est pas un après Miyazaki d'ailleurs, puisque Miyazaki, contrairement à ce qu'il dit, continue de tourner. Mais bon, voilà. Mais il y a effectivement une relève maintenant qui est là, qui s'inscrit dans le dans la ligne claire de Miyazaki avec beaucoup de talent, beaucoup de d'allants. Manifestement, voilà, ils ont été bien formés et ils savent comment faire les choses. Alors c'est vrai que c'est une fable gentiment ou durement écolo, on va dire, avec quand même cette idée extraordinaire d'une pluie permanente sur Tokyo. Voilà, donc c'est quand même ça, c'est vraiment une idée visuelle formidable, et avec cette jeune fille qui peut tout d'un coup déclencher le soleil ou faire disparaître, donc ça aussi c'est quand même, ce sont des idées visuelles qui transcendent en quelque sorte ce qui ne pourrait être qu'une sorte de petite fable écolo, pas très intéressante, pas très passionnante. Non, il y a suffisamment d'apport visuel, suffisamment de discours cinématographique justement pour que le film transcende tout ça et atteigne vraiment un grand et beau point. On pourrait presque, dans une prochaine édition, le voir figurer dans un livre qui s'appelle 100 grands films pour les petits d'un certain Nicolas Boukreyev, ouais, chez Arte Édition. Je pense qu'il pourrait y figurer notablement. Voilà.
Les siffleurs du cinéaste roumain Corneliu Porumbuiu. Cristi, un inspecteur de police de Bucarest, corrompu par des trafiquants de drogue et soupçonné par ses supérieurs, est mis sur écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l'île de la Gomera, il doit apprendre vite le silbo. C'est une langue sifflée ancestrale. Et grâce à ce langage secret, il pourra libérer en Roumanie un mafieux de prison et récupérer les millions cachés. Mais l'amour va s'en mêler et rien ne se passera comme prévu. Le cinéaste s'est donc mis à jouer avec les codes du genre, très différent du film policier au film noir, en western, en passant par la comédie, avec des personnages qui jouent toujours un double jeu. Le film, lui, s'est un peu perdu dans la compétition cannoise très riche de 2019, Laurent. Mais sorti de ce contexte festivalier, c'est un bijou noir, satirique et très drôle.
Oui, même s'il faut quand même prévenir que on est très très loin de ce que fait Porumbuyo d'habitude et qu'on a... Et qu'on
c'est bien, il change de
d'aimer. Oui, d'accord, ouais. en rappelant 12h08 à l'est de Bucarest, ouais, le trésor policier adjectif, vraiment des choses qu'on a énormément aimées et qui ont symbolisé presque cette nouvelle vague roumaine. Alors là, c'est beaucoup plus... on va dire presque ironique, mais ironique sur une accumulation de citations. Vous l'avez dit, Gilda, mais aussi Antonioni, le Psychose d'Hitchcock, les Contes d'Hoffmann. Enfin bon, il n'arrête pas comme ça de surmultiplier les références. C'est brillant, on n'y comprend rien, mais ça se suit avec plaisir.
L'autre de... Non, celui-là s'appelait Les Siffleurs, pardon, de Porumbuiu.
Oui, c'est ça.
L'autre, un premier film signé Charlotte Dauphin. Marie est une jeune danseuse à l'Opéra de Paris. Après la mort brutale de son père le jour de son 30e anniversaire, elle décide d'arrêter sa pratique. Son amour pour Paul, un photographe qui a pris le dernier portrait de son père quelques minutes avant sa mort, va peu à peu éveiller en elle une force vitale qui va l'aider à revenir à une autre version d'elle-même. C'est un film ambitieux avec des questions fondamentales, le deuil, la mémoire, l'art, mais toutefois nébuleux et prétentieux, ai-je pu lire ici et là.
Alors Marie, l'héroïne dont vous parlez, elle est représentée dans le film sous deux actrices. Voilà. Donc on songe immédiatement à Buñuel, cet obscur objet du désir, ce qui fait que la référence n'est pas un petit peu écrasante, d'autant plus que l'une est jouée par Astrid Bergès Frisbee et l'autre par Anouk Grimbert. Vous aurez noté, sans être méchant avec personne, qu'il y a une légère différence d'âge entre ces deux actrices et que du coup ça donne au scénario la nécessité en permanence de justifier cette différence que ne faisait pas et ce que n'avait pas à faire Buñuel, et ça donne une narration d'une complexité folle, alors qu'effectivement le film ne nous dit fondamentalement pas grand chose sur le travail de deuil, sur des choses comme ça. Et quand on découvre que ce premier film est explicitement autobiographique, on se dit que le film se perd les pieds dans l'esprit de sérieux, la multiplication des citations censées faire sens, et puis surtout une incapacité à prendre la distance nécessaire justement par rapport à ce réel vécu.
Nina, ça s'appelle donc L'autre de Charlotte Dauphin. J'étais déjà sur chanson Nina Wu de Midi Z, le chinois. Nina Wu a tout quitté pour s'installer à Taipei dans l'espoir de faire une carrière d'actrice, mais elle n'a tourné jusqu'alors que quelques publicités. Un jour, son agent lui propose le casting du rôle principal d'un film d'espionnage. Malgré sa réticence à la lecture des scènes de nu et de sexe, Nina se rend à l'audition. Un film en pleine actualité, notamment en ce moment le procès Weinstein. Alors oui, un film sur la brutalité et la violence du milieu du cinéma. Et ce que doit faire une actrice pour réussir, doublée d'un thriller paranoïaque, les cauchemars fantasmés de l'actrice, et tout se mélange dans ce film, moi je trouve bancal, très répétitif, dans sa narration, et dont la froideur exclut toute empathie avec son héroïne.
Oui, mais c'est quand même une tentative intéressante, dans, vous le disiez, dans le contexte actuel. Alors il faut dire par exemple que le rendez-vous avec le réalisateur se fait dans la chambre 1408, comme par hasard la chambre 1408 c'était le même numéro que celle de Weinstein en 2007 pour lorsqu'il produisait un film d'horreur et qu'il convoquait ses actrices dans cette chambre. Donc il y a une vraie volonté de l'actrice d'ailleurs elle-même qui s'appelle Wu Keixi qui a coécrit le film, de dire quand même des choses sur ce qu'elle pense être sa réalité d'actrice dans le monde du cinéma actuel. Vous l'avez dit, c'est trop embrouillé, ça part trop dans beaucoup de directions, mais en même temps je trouve que le propos central et essentiel mérite d'être vu et d'être entendu. Pourtant, Nina Wu de Midi Z.
Midi Z qui avait bien commencé pourtant. L'adieu de Lulu Wang. Lorsqu'ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère tant aimée, est atteinte d'une maladie incurable, ses proches, selon la tradition chinoise, décident de lui cacher la vérité. C'est un film Kleenex apparemment, non?
Ben, c'est un film américano-chinois et pas seulement chinois, c'est-à-dire que ça se détache un peu de ce qu'on voit et de Cibo en ce moment, parce qu'on se dit, tiens, une famille chinoise face à la maladie de l'aïeul, mais on est dans les séjours des monts Fuchun qu'on adore. Eh ben non, manque de peau, ce départ-là ne donne pas du tout le même film. C'est une jeune réalisatrice d'origine effectivement chinoise, Lulu Wang, et son film est sans portée, précisément parce que, comme elle le dit de façon très maligne à la fin du générique, c'est inspiré de mensonge réel. Alors oui, effectivement, si c'est ça la seule mention intéressante, eh bien là aussi, elle a du mal à se détacher de son réel et c'est bien dommage.
Merveille à Montfermeil, premier film réalisé en solo par Jeanne Balibar. Joël et Kamel font toutes deux partie de l'équipe municipale de la nouvelle mairie de Montfermeil. Mais ils sont en instance de divorce et toute l'équipe travaille, elle, à la mise en œuvre d'une nouvelle et très surprenante politique. C'est un film horripilant et intrigant à la fois, intrigant dans sa vision du monde politique, plus poétique que cynique, et à ses propositions de scénarios comme cette idée de journée à thème, la journée du Sarouel, la sieste pour tous, ou l'enseignement des maths en arabe pour régler la plupart des problèmes d'échecs scolaires, pourquoi pas, et au-delà de ce concert loufoque, l'idée de vivre ensemble, tourner avec les habitants de Montfermeil, que Balibar a préparé pendant un an dans des ateliers filmés, horripilant aussi parce que complètement surjoué par les comédiens professionnels du plateau, comme Béard, Ramzi Bedia, Mathieu Amalric et Balibar elle-même. Loufoque, il faudrait même inventer un autre mot. Débridé, pas vraiment drôle et limite embarrassant.
Ouais, il faudrait pas que le Montfermeil et Victor Hugo deviennent l'alpha et l'oméga du cinéma français en banlieue, quand même. Je trouve ça un peu pauvre. Il va falloir quand même changer à la fois de direction et puis même peut-être de sujet. C'est drôle parce que moi, les merveilles, ça m'a fait penser à un film d'Alice Rohrwacher qu'on aime beaucoup ici, dont on a encore parlé récemment, qui était un film un peu pareil sur l'utopie, mais c'était l'utopie vue avec un ton de mélancolie nécessaire. Là, Balibar, elle nous fait le coup de l'utopie vue sur un ton comique qui fait pas rire.
On va un peu débordé, on va finir par Tommaso d'Abel Ferrara, mais comme on retrouve Willem Dafoe chez nous la semaine prochaine en invité principal, on en parlera avec lui, Tommaso, plus une spéciale Ferrara avec quatre de ses films qui ressort. Des cadeaux pour nos invités, Laurent.
Oui, des cadeaux. Alors d'abord, pour Nicolas Boukrieff, les deux premiers films du nouveau prodige du cinéma russe, Kantemir Balagov, c'est pas moi qui le dis, c'est l'intitulé du coffret. Je sais pas si vous connaissez le cinéaste,
non,
Nicolas Boukrieff. Ah bah alors on est très très heureux de vous le faire découvrir. C'est deux formidables portraits de femmes et c'est vraiment, je pense, quelqu'un qui va compter parce que c'est un styliste et qui a des choses à dire, ce qui est un bon mélange pour un cinéaste intéressant.
Merci beaucoup.
Mais je vous en prie, nous en prions. C'est chez ARP. Et pour vous, Jonathan, ce Roubaix, une lumière, le nouveau film d'Arnaud Desplechin, dont le DVD vient de sortir au Pacte, c'est là aussi un superbe film où Desplechin s'évade de son univers habituel.
Merci beaucoup.